Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était le sujet, c'était entre autres la chute, hein, et c'était avec Jean, et c'était très intéressant. On avait appris entre autres que Ève, donc la femme, hein, a chuté par convoitise, et puis l'homme lui a chuté par solidarité avec sa femme. Hein, c'était ça, hein, c'était, hein, c'est pas mal ça. Hein. Moi j'ai bien retenu. Comment ? Alors, le sujet ce soir, c'est en fait le salut dans l'Ancien Testament. Et franchement, je me suis dit, pourquoi c'est tombé sur moi? J'aurais préféré que ça tombe sur Georges, par exemple, ou sur Jean, parce que cette mission impossible de faire un condensé de condensé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est d'une richesse extraordinaire, hein, quand on cherche le salut dans l'Ancien Testament. Et donc, on va juste voir beaucoup de versets. Mais je vous en ai aussi noté pas mal sur une feuille, et je vous encourage vraiment à étudier cela chez vous. Et je pense que c'est une richesse que nous avons, que le Seigneur nous donne, de le rechercher dans l'Ancien Testament, et c'est incroyable le bénéfice que l'on peut retrouver. Mais ce soir, et puis la prochaine fois, ça sera vraiment... Un mini condensé, hein, tellement le sujet est vaste. Et puis peut-être que la prochaine fois aussi, on continuera. Et puis on verra aussi, au niveau de l'incarnation, quelques fausses conceptions de l'incarnation. C'est peut-être quelque chose qui sera aussi intéressant à voir. Alors, je vous ai préparé un petit... voilà, hein, recto... Hein. Verso, donc même si vous ne voyez pas, c'est beaucoup de versets qu'il faudra, on va tous les lire, hein, ouais. Et on va essayer même de les apprendre par cœur, voilà. Non, on va pas les lire, et pour pas que ça soit trop lourd, je vais vous en citer beaucoup, et on en lira quelques-uns, je vais aussi vous en citer, et puis on essaiera le plus rapidement possible de mettre le vidéoprojecteur qui est décentré, là, qui est inutilisable, de le mettre au milieu, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable quand on peut projeter. C'est un petit peu embêtant de faire comme ça, là. Mais bon, hein, on essaie de faire au mieux. Voilà, donc je vous donne ces documents. Je vais juste en garder un, s'il y en a assez. Donc là, il n'y a que des versets. En fait, il n'y a que des versets, comme ça, vous les avez. Et puis, on va essayer de suivre et on verra où ça nous mène au niveau du temps. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas la possibilité de tout voir. Si c'est le cas, eh bien, tant mieux. Et puis, Dieu voulant, la prochaine fois, on verra d'autres références. Voilà. Mais d'abord, c'est bien de faire un petit rappel. Un petit rappel de ce que nous avions vu la dernière fois, donc avec la chute. La chute est automatiquement comme conséquence la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et c'est vrai qu'on voit que tout de suite, et on est frappé de voir que dès la chute, l'homme et la femme ont cherché à fuir la présence de Dieu. Alors qu'ils étaient avec lui, ils ont cherché à fuir la présence de Dieu. Et il y a eu vraiment une cassure entre celui qui est la source de la vie, hein, et puis sa créature, l'être humain. Et c'est pour ça que c'est donc la mort spirituelle avec toutes ses conséquences. Et on le voit vite, même ne serait-ce que je relisais avec la réaction d'Adam. La première fois qu'il a vu Ève... Hein, moi, je l'imagine avec des yeux là, qui étincellent. Hein, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et puis après la chute, hein, la femme que tu as mis à mes côtés, hein, voilà, c'est à cause d'elle. Hein, donc le changement est radical. Et puis on sait... le travail, est-ce que le travail, c'est la conséquence de la chute?
Non.
Non. Non. Mais par contre, le travail pénible, oui. Hein, voilà. Et donc nous, on connaît que le travail pénible, ou en tout cas en grande partie. Et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose aussi, voilà, qui est, voilà, la pénibilité du travail, conséquence de la chute, pour la femme aussi, la maternité, la grossesse, etc. Et puis même Également, les rapports entre l'homme et la femme. On entend parler actuellement beaucoup de féminicide, etc. Oui. On sait que c'est une conséquence de la chute, mais directement aussi, puisqu'on voit que bien, voilà, l'homme dominera sur toi. Et quand on lit les chapitres qui ont suivi, on voit que déjà, il y a eu des paroles qui ont été données de la part d'un époux à ses femmes qui étaient très dures. Donc voilà, c'est vraiment la chute, tout cela. Et Paul nous le résume dans l'épître aux Romains, lorsqu'il nous dit que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi, par un seul homme, la mort a régné sur tous les hommes. La mort a régné sur tous les hommes. Et en Éphésiens, au chapitre 2, il va dire ceci, et bien voilà, vous aussi vous étiez comme eux. Vous étiez donc morts par vos offenses. Vous étiez par nature des enfants de colère. Donc, on voit que c'est héréditaire. Par nature, vous étiez des enfants de colère. C'est important de se rappeler cela. Parce que ça veut dire, quoi ? Qu'on ne peut pas naître chrétien. C'est impossible. Par nature, de toute façon, on est mort spirituellement. On ne peut pas naître chrétien. Et donc, il faut qu'il y ait un changement dans notre vie. Ça, c'est... on ne peut pas... passer outre cela. À un moment, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Il faut que celui qui est la source de la vie vienne vivre dans nos cœurs. Il faut donc qu'il y soit invité. Et c'est vrai que pour les enfants de chrétiens, des fois, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et on n'a pas forcément une date fixe, mais on peut avoir plusieurs épisodes dont on se rappelle. Et au fur et à mesure que l'enfant connaît, eh bien, il va accepter les connaissances nouvelles pour lui. Et voilà, l'enfant de chrétien, des fois, il va s'inquiéter, il va dire, mais est-ce que je suis vraiment né de nouveau, parce que je me rappelle pas comme les autres une date précise. Rien que le fait de se poser la question, déjà, ça prouve que on est né de nouveau. Il n'y a aucun doute. Voilà. Mais il faut qu'il y ait vraiment cette naissance. Il faut naître de nouveau. Il y a plusieurs versets qui reviennent dans la parole de Dieu, dans le psaume 14, je vous l'ai mis, psaume 14, verset 3, psaume 53, verset 2 et 4, Romains, chapitre 3, verset 12, tous sont égarés. Comment ? Oui, j'ai oublié de vous dire, oui, moi j'ai pensé à le couper, mais des fois on pense pas, souvent moi j'oublie aussi. Ouais. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est vraiment un résumé, ça, de choses que vous connaissez, mais qu'il est toujours bien de se rappeler. Donc l'être humain est perdu. Quand on parle de ceux inconvertis, on voit qu'il y a toutes sortes de réactions. Souvent, en tout cas pour ma part, c'est l'indifférence. Oui, bon, ouais, ça c'est ce que tu crois toi, mais bon, oui c'est vrai, je crois en Dieu, mais bon, voilà, ça s'arrête là. Ouais. Et après, certains par contre, ils vont minimiser la réalité. Ils vont dire, oui, bon, tu dis ça, mais bon, il y a quand même pire que moi. Donc quand même, Dieu, il faudrait qu'il s'occupe d'abord des autres. Voilà, il y a ça aussi. Et après, toutes les religions, c'est quoi ? C'est essayer de s'élever jusqu'à Dieu, de se racheter. Vous connaissez ce passage de Jérémie au chapitre... Pardon ?
Je dis, dans les autres religions, c'est pas Dieu qui est descendu vers nous.
Voilà, c'est l'homme qui essaie de s'élever vers Dieu. C'est exactement ça. Et on se rend compte que, quelle qu'elle soit, avec des formes tout à fait différentes, en fond, c'est toujours ça.
Voilà.
En fond, c'est toujours ça. Là, si vous lisez, par exemple, le Coran, c'est vraiment ça aussi. Et puis, voilà, toutes les religions humaines, elles ont toujours ce schéma de chercher à s'élever vers
Dieu. Voilà.
Jérémie 13, 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Donc la solution ne peut pas venir de l'homme, la solution, bien sûr, elle vient de Dieu. Et c'est là qu'on arrive au salut. Le salut, quand on considère l'ouvrage de Dieu, la nature, quand on voit comme tout est tellement bien ordonné, même si l'homme veut dire que c'est le hasard, on se rend compte que le hasard n'a absolument pas sa place. Tout est vraiment bien ordonné. Un Dieu qui a créé cela, est-ce qu'il aurait pu, concernant le salut, le laisser comme cela sans un plan précis ? Eh bien non, on voit vraiment qu'il y a un plan absolument précis. Et l'Ancien Testament, finalement, si on le prend juste comme un livre historique, avec un peuple particulier, c'est intéressant. Mais on perd une grande partie de sa richesse. Parce que l'Ancien Testament, entre autres, c'est la préparation au salut. Et on voit que dans le plan de Dieu, il était nécessaire qu'il y ait ce temps de préparation au salut. Et je vous ai mis Galates chapitre 4, verset 4, qui dit ceci, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Lorsque les temps ont été accomplis, voilà. Lorsque les chances étaient là, quand le calendrier était arrivé à la bonne période, Dieu a envoyé son Fils. Voilà. Et c'est quelque chose qui était important. Et tout ce temps de préparation, et ça c'est vraiment la richesse, tout ce temps de préparation tourne nos regards vers le salut. Alors, définition du salut, mais pour l'enfant de Dieu c'est facile, hein, la définition du salut. Alors, on prend Luc au chapitre 2, versets 30 et 31. Si, la première personne qu'il a, si elle veut le lire.
Quand Dieu a vu ton salut, salut que Dieu a préparé
de
lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple.
Alors, mes yeux ont vu ton salut, c'est donc Siméon qui reçoit l'enfant Jésus dans ses bras, qui le contemple, qui dit voilà, mes yeux ont vu ton salut. Donc Jésus-Christ, Siméon affirme. Voilà le salut. Et je vous ai mis beaucoup de versets à ce sujet qui nous démontrent que le salut, en fait, c'est Christ. Le salut, c'est Christ. Et je voulais juste Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il éleva à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Et bien sûr, parlant de Jésus-Christ. Donc, la définition du salut, eh bien, c'est Jésus-Christ. Alors par contre, il y a une petite question que l'on peut se poser. Et par exemple, le peuple juif qui a l'Ancien Testament peut nous poser cette question. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de prétendre, comme on le fait, que toute la parole de Dieu, et en particulier l'Ancien Testament, ou entre autres l'Ancien Testament, eh bien, converge vers Jésus-Christ? Est-ce que toute la parole de Dieu converge vers Jésus-Christ? Il y a beaucoup de versets qui nous le montrent. Là, j'ai mis juste quelques versets que j'ai pris dans le Nouveau Testament. Mais après, on en verra beaucoup de l'Ancien Testament. Alors, là, c'est pareil, on ne va pas tout lire aussi, mais il y en a énormément. Et je vous lis, par exemple, le premier, 1 Pierre... c'est à quel endroit, ça? Oui, 1 Pierre 1, 10, merci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, en fait, les prophètes, c'était presque une enquête, et de rechercher dans tout ce qu'ils avaient entre les mains, de rechercher Jésus-Christ. Voilà quel était le travail des prophètes. Et Jésus va aussi l'affirmer à maintes et maintes reprises. Jean chapitre 5 verset 39, alors qu'il est en face d'accusateurs, les scribes et les pharisiens, il va leur dire « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et il y a énormément de passages. J'aurais aimé être une petite souris. Lorsque Jésus, après sa résurrection, a accompagné les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je pense que vous aussi, et il a pris, donc, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur a expliqué tout ce qui le concernait dans l'Écriture. Ça a dû être vraiment extraordinaire, et c'est pour ça que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Mais je me dis que si, dans sa sagesse, le Seigneur ne nous l'a pas donné, ce message-là, on aurait tellement aimé l'avoir. C'est parce que, en tout cas pour moi, je suis peut-être un petit peu feignant, et ça m'aurait peut-être dispensé, j'aurais cru être dispensé de le rechercher dans les Écritures. Et en fait, ce que Jésus veut, et ce que le Seigneur veut, c'est que nous le recherchions, justement, dans l'Ancien Testament et dans les Écritures. Et c'est vraiment un exercice qui est d'une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais je voudrais juste aussi vous citer quelques textes. Jésus va dire « Abraham a tressailli de moi de ce qu'il verrait mon jour. » En Jean 5, il a dit « Moïse a écrit de moi. » En Matthieu 12, 45, il a dit « David m'appelle Seigneur. » Une petite parenthèse, c'est pour ça que je vous cite ces passages, parce que là aussi on entend beaucoup d'attaques sur l'Ancien Testament. Par exemple, Abraham n'a pas vraiment existé.
Ah bon?
Mais est-ce que Jésus aurait cité Abraham dans ses mots si Abraham avait été un personnage de la mythologie? Ben, sûrement pas. Moïse aussi, peut-être que vous l'avez entendu, je voulais vous en parler lorsqu'on a vu le canon biblique, on n'a pas eu le temps, mais les livres du Pentateuque qui ont été écrits par Moïse, ça aussi s'est remis en question. Certains disent que ça a été écrit du temps de Josias, alors le roi Josias, je dis ça pour David, hein. ou alors que ça a été écrit par Esdras. Hein, donc Esdras qui était un scribe versé dans la loi de Moïse, et donc c'est lui qui aurait écrit cela. Voilà, les psaumes de David, certains prétendent aussi que ça a été écrit de façon beaucoup plus récente, du temps des Maccabées, mais c'est impossible, hein. Jésus n'aurait pas cité, n'aurait pas dit Moïse a écrit de moi si c'était pas vraiment Moïse qui était l'auteur de ces textes. Il n'aurait pas cité David si David n'avait pas écrit ces psaumes. Mais on peut entendre encore aujourd'hui, hein, concernant Moïse, on entend beaucoup d'attaques et de remises en question à ce sujet-là. Mais nous savons, hein, par l'Écriture, que c'est vraiment Moïse qui a écrit, et Jésus nous le confirme. Alors, juste aussi quelque chose de remarquable, c'est que lorsqu'on lit les évangiles, on voit que Jésus citait constamment les Écritures. Et quand on sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, eh bien, il avait le cœur rempli des Écritures qu'il a citées à maintes reprises. Et c'est pour ça que quand on dit que l'Ancien Testament nous montre Jésus-Christ, eh bien, c'est tout à fait juste de le dire. Alors, pour autant, il ne faut pas absolument vouloir faire des rapprochements invraisemblables et absolument vouloir que tout soit un type de Jésus-Christ. Et là, on va aussi dans des terrains qui ne sont pas ce que Dieu veut. Et puis également, lorsqu'on constate qu'il y a des textes de l'Ancien Testament qui sont repris dans le Nouveau et qui concernent Jésus-Christ, là aussi, il faut être prudent et ne pas élargir à tout le texte d'origine la portée messianique. Et je voudrais juste qu'on puisse prendre un exemple ensemble dans l'évangile de Jean. On prend le chapitre 13, verset 18. Voilà, la deuxième partie, hein, donc c'est Jésus qui parle. Et qui dit, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et ce texte, on le retrouve dans le psaume 41. C'est juste pour un petit exercice pour qu'on puisse vraiment après, voilà, se rappeler que voilà, on peut pas faire n'importe quoi. On prend le psaume 41, le verset 10, on va retrouver ce texte. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est un psaume de David. Mais est-ce qu'on peut élargir la portée messianique à tout le contexte? C'est impossible. Et notamment, regardez le verset 5. Je dis, Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Il est bien entendu que là, c'est David qui parle, et ce texte ne peut absolument pas parler de Jésus-Christ. Voilà. Et ça, bon, j'ai pris un exemple qui est frappant, mais c'est pour qu'on soit vraiment prudent aussi à bien regarder le contexte et à savoir que les paroles sont aussi adressées à ceux qui les ont écrits ou ceux qui étaient leurs contemporains. Ceux qui étaient leurs contemporains.
C'est pas les mêmes paroles que toi.
Je me suis trompé? Non, je ne me suis pas trompé.
Il y a un décalage de verset, je pense.
Ah, dans les psaumes, voilà, vous pouvez avoir un verset de décalage. Voilà, ça arrive en fonction. Donc, si tu lis sur une darby, tu auras systématiquement verset en moins, par exemple. Voilà. Donc, comment?
C'est écrit à côté.
Par exemple, le psaume 41, là, c'est écrit verset 1.
Voilà, verset 1. Voilà. Mais bon, vous savez que la numérotation des chapitres et des versets n'est pas inspirée. C'était venu bien après. Donc voilà, là aussi, c'est une explication. Mais c'est quand même bien pratique. C'est quand même bien pratique. Alors, par contre, il y a énormément de textes. Hein, il y a beaucoup de textes qui nous parlent du Christ, qui sont de l'Ancien Testament et repris par le Nouveau Testament. Et je vous ai mis ici la liste des faits relatifs à Jésus-Christ qui, d'après le Nouveau Testament, sont un accomplissement des Écritures. On ne va pas tout lire. C'est une liste que j'ai récupérée sur un bouquin de Jules-Marcel Nicole, précis de doctrine chrétienne, s'il me semble que c'est. Voilà. Comme je l'ai trouvé quand même très intéressant, je vous l'ai mis. Hein, et bon, par exemple, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Hein, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Mais par exemple, sa venue volontaire dans le monde, on le voit dans le psaume 40, et ce texte est repris dans Hébreux 10. Et à chaque fois, vous avez comme ça le texte de l'Ancien Testament et sa reprise dans le Nouveau Testament, l'abaissement en dessous des anges, la naissance d'une vierge, hein, on le sait, voici la vierge deviendra enceinte, oui, oui. Etc. Et toi, Bethléem, Ephrata, voilà. Vous connaissez tous ces versets, oui. La fuite en Égypte, Jean-Baptiste, le zèle, hein, le zèle quand Jésus notamment a chassé les vendeurs du temple, le zèle pour la maison de Dieu. Son ministère, ses guérisons par exemple. Alors ça c'est intéressant. Alors peut-être qu'on aura le temps dans une autre série d'études, enfin dans une autre soirée, pardon, on aura peut-être le temps de prendre entre autres ce texte. Parce que, vous voyez, c'est quand même quelque chose, c'est le Matthieu 8, 17 éclaire Ésaïe 53 qui dit « Il s'est chargé de nos maladies ». Voilà, hein. Il s'est chargé de nos maladies. Des fois, on va mal le comprendre. Et on va le comprendre comme, eh bien, finalement, puisque le Christ s'est chargé sur la croix de mes maladies, mais Seigneur, pourquoi je suis malade, hein, physiquement? Sauf que en Matthieu 13, 35, ce même texte est repris. Hein, Jésus a guéri des malades, beaucoup de malades, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Il s'est chargé de nos maladies. Donc, vous voyez déjà, hein, grâce à cela, on a déjà un petit éclairage qui nous aide à comprendre un petit peu mieux la parole de Dieu. Alors, voilà, on va pas tout lire, mais bon, son entrée à Jérusalem, on le sait sur Ananon, le petit d'une ânesse, le complot, les 30 pièces d'argent. Quand on voit même la soif de Jésus, même ce qu'on lui a donné à boire est précisé. C'est quand même extraordinaire, hein, du vinaigre. C'est quand même vraiment quelque chose qui est merveilleux. Aucun os n'a été brisé, voilà, etc. Si vous voulez, vous pourrez vous amuser à faire cet exercice, à comparer les textes et à regarder aussi le contexte là pour. Et c'est vraiment là aussi quelque chose qui est intéressant. Et moi, je trouve que c'est parlant, notamment quand on voit aussi dans l'Ancien Testament ce que ressentait Jésus, qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament. Et c'est vraiment quelque chose qui enfin, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Mais voilà, on va avancer. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose à ce sujet. Alors, juste une petite question. Une petite question. On prend par exemple le psaume 22. Et donc, plusieurs paroles de ce psaume sont donc reprises dans le Nouveau Testament. Alors, on ne va pas tout lire. Hein. Alors, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, donc ça, on sait que Jésus a prononcé ces paroles sur la croix. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, verset 8. Hein. Remets ton sort à l'Éternel, verset 9. L'Éternel le libérera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve lorsque Jésus était à la croix. Et puis, on continue un petit peu. Et on voit après une bande de scélérats rôde autour de moi, verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Donc, toutes ces paroles-là, hein, on voit qu'on connaît ce qui s'est passé avec Jésus et on sait que ça s'est réalisé. Alors, ils ont percé mes mains et mes pieds. Il y a plusieurs traductions à ce sujet. Mais il y a beaucoup d'occurrences de ce terme hébreu que nous retrouvons dans l'Ancien Testament qui sont traduites par creuser. Voilà, ils ont creusé. Et donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est précieux et qui est bien traduit lorsqu'on met « ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et c'est vrai que ça nous parle de la crucifixion. Et beaucoup ont fait remarquer que à l'époque, elle n'était pas pratiquée en Israël. Même si d'autres peuples connaissaient et pratiquaient cela, ce n'était pas le cas du peuple d'Israël. Juste la question que je vous pose, ça m'est arrivé une fois de prêcher sur ce texte, alors c'était il y a très très longtemps, et quelqu'un que vous ne connaissez pas, un pasteur, est venu me dire, oui mais attends, en priorité, ça c'est pour David. Donc ça c'est vraiment pour David, et puis après l'appliquer directement au Christ, quelque part, eh bien, on fait un raccourci qui n'est peut-être pas très 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 heureux. Donc, est-ce que ce texte, il est prioritairement pour David ou pour le Christ? Alors, c'est une question ouverte. Des fois, on va se rendre compte que le texte, vraiment, il y a le contexte qui concerne vraiment la personne qui a écrit l'auteur de ce passage. D'autres fois, eh bien, ça n'a pas vraiment de sens si on l'applique uniquement ou en priorité à la personne, à l'auteur. Et ici, je ne sais pas, est-ce que pour David, quelqu'un a tiré au sort sa tunique ?
Non, je ne pense pas.
Peut-être, mais en tout cas, nous, on ne le sait pas. Est-ce qu'on lui a percé les mains et les pieds ? Franchement, je ne crois pas. Donc, on voit qu'il y a quand même des textes qui sont vraiment des textes messianiques, et c'est le Christ qui est le sujet principal de ce texte. Et ça aussi, c'est important lorsqu'on étudie la parole de Dieu, et bien de l'avoir aussi à l'esprit. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais aussi vous partager. Est-ce que vous avez des remarques? N'hésitez surtout pas.
J'en ai une, mais c'est quelque chose. C'est juste quelque chose concernant le verset 6. Mais moi, je suis un ver. Et dans la traduction de ce mot, en hébreu, c'est un nom qui correspond à un insecte. Et la particularité de cet insecte, c'est... en latin, c'est Coxus ilicis, mais quand la femelle du ver de l'espèce de l'écarlate, puisque c'est avec ce ver-là qu'on faisait du...
Le rouge,
l'écarlate. Quand la femelle du ver de l'espèce de l'écarlate est prête à pondre, elle attache son corps au tronc d'un arbre d'une façon si ferme et si permanente qu'elle ne pourra plus le quitter. Les œufs ainsi déposés sous son corps sont donc protégés jusqu'à ce que les larves soient capables d'entrer elles-mêmes dans le cycle de la vie. Comme la mère meurt, le fluide cramoisi imprègne son corps et le bois environnant. La teinture cramoisie ou l'écarlate de l'Antiquité en était extraite. On peut retrouver là l'image du Christ mourant sur le bois, versant son précieux sang pour pouvoir conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est pour ça que le mot ver, là, ce ver, c'est tola, je crois, en hébreu. Tola, ouais. Qui indique cette partie, ce ver.
Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez tous bien entendu.
Oui.
Ça, c'est vraiment intéressant comme précision. Et ça me permet de rebondir sur le fait que ce genre de précision, quand on fouille, alors moi, tu vois, là, je le découvre et merci. Mais on va trouver beaucoup, beaucoup comme ça de détails qui nous montrent Christ. Ce qui fait que c'est absolument impossible en deux soirs on va pas voir grand chose en fait, mais ça serait bien si après chacun avait envie de gratter, de chercher. Par exemple, on va prendre quelques illustrations du salut dans l'Ancien Testament. Le tabernacle, mais je l'ai pas retenu parce que c'est beaucoup trop riche et c'est impossible. Alors il y a deux ans peut-être, Alain nous avait fait une série qui avait duré trois soirs, et il y a 10-12 ans Jean nous avait fait une série qui avait duré peut-être 5 ou 6 soirs. Voilà. Et on voyait que dans tous les détails, nous montrent Christ. Les couleurs, les alliages, les matériaux, la nature des bois, par exemple, pourquoi c'est de l'acacia ? L'acacia, c'est imputrescible. Donc, ça nous montre Jésus-Christ.
Il y a le côté humain, le côté divin.
Les vêtements aussi, etc. Tout nous montre Christ. Comment voulez-vous, c'est pour ça que je me suis dit, quel dommage que ce n'est pas Georges ou Jean, hein. Comment voulez-vous, hein, qu'on puisse faire un résumé? Non, mais vraiment que nous puissions nous encourager, hein, voilà, les uns et les autres, à rechercher le Christ dans l'Ancien Testament, parce que quel encouragement, hein, quel encouragement nous avons. Alors, moi j'ai pris juste quelques exemples. Alors, peut-être que vous en avez certains qui vous ont parlé, et je ne veux pas que vous soyez frustrés, donc n'hésitez pas aussi à intervenir et à participer, et ça ne pourra qu'être enrichissant pour tout le monde. Alors, j'ai pris par ordre, en ordre, dans l'ordre chronologique. Bon, déjà, petite question, est-ce que quand on prend Genèse, le premier couple, Adam et Ève, donc dans le chapitre 2, est-ce que ça c'est quelque chose que l'on peut dire, bon, qui tourne nos yeux vers le salut, vers le Christ?
Oui.
Oui. Alors?
Et bien la femme qui est tirée du côté d'Adam, c'est l'image, oui, de l'épouse de Christ qui est tirée du côté du percé avec le sang et l'eau qui coule.
Oui, et on le voit, hein, donc c'est, merci Sylvia, on le voit dans, est-ce que je vous l'ai mis, dans Éphésiens chapitre 5 versets 31 et 32, lorsque Paul parle des relations entre l'homme et la femme, hein, et que l'homme vraiment aime sa femme, et il dit, hein, je dis cela par rapport, hein, à l'Église, hein, à ce mystère de l'Église. Et il va rappeler, hein, justement le premier couple, Adam et Ève. Donc rien que ça, on peut le lire rapidement, et pourtant même avec quelques passages du Nouveau Testament, on voit que nos yeux sont tournés vers le salut. Donc, voilà, c'est vraiment d'une richesse extraordinaire. Alors, on va quand même avancer. Adam aussi, hein, il est comparé à Christ, mais en contraste, hein, après la chute. Ouais. Et Paul va dire, eh bien, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et de même, eh bien, par un seul homme et un seul acte de justice, eh bien, la vie est donnée, ouais, à tous. Et il va parler du premier Adam, et du second Adam, qui lui est un esprit vivifiant, donc qui apporte la vie. Mmh. Donc voilà, il y a là aussi, il y a Adam qui est utilisé, mais en contraste simplement ici. Voilà. Et puis Adam qui est tenté par Satan, il va chuter. Le Seigneur dans le désert est tenté par Satan, et puis il va être victorieux. Bon, on connaît aussi la promesse qui est faite en Genèse 3, lorsque le Seigneur parle au diable, et il va lui dire, en parlant de la postérité de la femme, mm-hmm, celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. Et ça, même si on ne trouve pas ce passage spécifiquement dans le Nouveau Testament, on sait que c'est vraiment de Christ qu'il est question. Hein. Il y a Abel aussi, hein. Et alors dimanche Guillaume nous en a un, oui, petit peu parlé. Abel dont le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel.
D'Abel, il appelle la vengeance.
Voilà, Abel c'est la vengeance, alors que Christ c'est la rédemption. Mais on avance un petit peu, on va arriver au déluge. Et là on va prendre quelques textes dans la Genèse.
Alors, Genèse.
Alors c'est le chapitre 6. Donc je vous lis là, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Verset 8. Noé obtint la faveur de l'Éternel. Et puis ensuite, si on passe au chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Là aussi on a, alors il faudrait aussi l'étudier en détail, et là encore je vous encourage à le faire, mais on a une magnifique image de l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque on prend, je vous prends quelques passages dans Matthieu, chapitre 24. Tout ça normalement vous les avez, oui. Hein, versets 38 et 39. C'est intéressant ça aussi comme passage. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Voilà. Et on met ça en parallèle aussi avec un passage de 1 Thessalonicien qui nous parle de Christ qui nous délivre de la colère à venir. D'accord ? Donc, il est question de la colère de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité. Déjà, ce passage de Matthieu est intéressant puisqu'on voit qu'il rentrait dans l'arche et les gens ne se doutèrent de rien. Et puis, donc, on voit que Noé et sa famille sont dans l'arche quand ensuite le déluge vint. Et Jésus compare cela avec donc, la tribulation. Donc déjà, ça aussi, c'est des fois des passages, mais je fais juste une petite parenthèse, on ne rentre pas dans les détails, on le fera beaucoup plus de façon spécifique, qui peuvent nous éclairer, notamment au niveau de la tribulation et de l'enlèvement. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est pendant, est-ce que c'est après, voilà. Mais on le verra beaucoup plus en détail, et puis là aussi, ce sera juste des passages qui seront exposés, et vous ferez votre propre avis là-dessus, ce qui est le plus important. Mais je reviens à l'arche. On va voir donc beaucoup de similitudes. Jésus nous délivre de la colère qui vient et il compare cela à l'arche avec, dans laquelle Noé et sa famille ont pu échapper au jugement. On voit que du temps de Noé, la méchanceté des hommes était grande. Mais finalement, quand on lit ici le verset 38, on voit qu'il n'y a rien d'anormal. Jésus va relever quoi ? Dans l'agissement des hommes.
Qu'ils mangeaient,
heureusement, et ils buvaient. Ouais, ouais. Et puis, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Mais en fait, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer? Parce qu'on sait que la méchanceté de l'homme était grande. Jésus veut nous montrer que ce qui se passait aussi, c'est que l'homme vivait sans se préoccuper
sans
de Dieu.
Voilà, sans Dieu.
Oui. Donc, sans vous voyez, ce que Jésus relève là, c'est important. Parce qu'on peut avoir une bonne conduite. Même se marier, alors que de nos jours, c'est quelque chose même qui est délaissé. Et pourtant, si on vit sans Dieu, voilà, on ne se préoccupe pas de lui. On est dans ce cas de perdition. Donc là aussi, quelque chose qui est intéressant. Mais De Pierre nous dit que, de même que dans les jours de Noé, les gens ne se doutaient de rien, aujourd'hui, certains disent, mais où est la promesse de sa venue? Voilà, depuis le temps que vous en parlez, Jésus, il doit revenir et puis il ne revient jamais. Voilà, et Pierre va dire, ils veulent oublier qu'il y a eu une terre qui a été emportée par les eaux et qu'il y a eu un jugement de Dieu. Et de même qu'il y a eu ce jugement avec le déluge, c'est une certitude qu'il y aura un jugement bientôt. Et c'est une certitude que, de même que Noé est rentré dans l'arche, Jésus revient bientôt. Ça, c'est un enseignement. Mais on voit aussi beaucoup de choses. Par exemple, l'arche a été faite avec des plans bien précis. Et certains disent que les proportions, alors je ne sais pas si c'est vrai, les proportions correspondent au bâtiment actuel et sont encore utilisées, ces mêmes proportions, longueur, largeur, etc., que les bâtiments actuels de nos jours, les bâtiments modernes, les navires modernes. Bon. Je ne sais pas du tout si c'est une réalité ou pas, mais il y avait des plans précis. Concernant le salut, l'œuvre de Jésus-Christ s'est déroulée aussi d'après des plans précis. Pierre va dire en Actes chapitre 2, verset 23, Jésus, il a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Et en fait, dessein arrêté, c'est même un pléonasme pour montrer comment c'est quelque chose de sûr. Parce que dessein, ça veut dire une décision, une entreprise. Ouais. Voilà. Et arrêter, c'était utilisé notamment pour marquer les frontières. Donc voilà, Pierre insiste là-dessus pour montrer que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait comme cela, au fur et à mesure que les circonstances se présentaient. Donc Dieu avait arrêté ce dessein de toute éternité pour notre salut. L'arche a subi la tempête du jugement. Le psaume 69, qui est merveilleux, qui nous montre les sentiments du Christ lorsqu'il était dans cette agonie. Et il dit, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je m'y puis à crier. Je suis tombé dans un gouffre, les eaux m'inondent. Et le psaume 42, verset 8, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jugement de Dieu qui est passé sur le Christ et le Christ qui a subi le jugement de Dieu. Et puis, comment Noé est rentré dans l'arche ? Par la porte. C'est logique. Voilà, hein. Et puis, qui c'est qui a refermé la porte ? C'est Dieu. Jean chapitre 10, quel verset vous les connaissez, le bon berger, hein, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et Matthieu 25, 10, concernant la parabole des vierges sages et des vierges folles. Hein, pendant que les folles sont allées acheter de l'huile, parce qu'elles en manquaient, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes, les sages, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et on sait que lorsque les autres sont arrivés, la porte n'a pas été ouverte. Voilà. Le temps de Dieu était arrivé, hein, et la porte a été fermée. De même que pour l'arche, la porte aussi a été fermée. Voilà donc rapidement quelques illustrations de l'arche. Hein. Là aussi, on pourrait dire, autre chose aussi importante, Noé et sa famille étaient à l'abri dans l'arche. Hein. Les flots étaient là tout autour. Hein. Le jugement de Dieu s'abattait tout autour, mais eux, ils étaient à l'abri. Et nous sommes en Christ. Romains au chapitre 8, verset 1, dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et l'enfant de Dieu est en Jésus-Christ. Et il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Le jugement de Dieu ne peut nous atteindre puisqu'il a frappé Jésus-Christ, qui était notre substitut. Voilà encore quelques illustrations que nous trouvons au niveau de l'arche. Est-ce que vous avez des remarques à ce sujet? Toi? Bon, alors on va avancer. Hein. On arrive à Abraham. Abraham, qui veut dire?
Père de multitude.
Oui, père d'une multitude. Et son nom a été changé à Abraham. Alors Abraham. Hein. Oui. Donc père de multitude et le reste est père élevé. Père alors élevé. Le premier c'est quoi?
Père élevé,
changé en père d'une multitude. Multitude. Ça aussi, ça pourrait nous apprendre. Hein, on pourrait aussi s'arrêter là-dessus, hein, rien que cette signification. Bon, mais on n'a pas le temps. Mais on arrive aux bénédictions donc qui ont été données à Abraham. Genèse chapitre 12, verset 3, si quelqu'un veut le lire.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Voilà. Et c'est surtout la deuxième partie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et vous savez que cette par la venue, hein, donc dans sa descendance de Jésus-Christ, que cette bénédiction pour tous hein, est arrivée. On retrouve ce verset, cette parole dans plusieurs autres passages, et cette promesse est renouvelée à Isaac, en Genèse chapitre 26, verset 4. Elle est renouvelée aussi à Jacob. Hein, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis on va la trouver aussi d'une façon un petit peu différente, pour Judas, et je voudrais aussi juste vous le faire remarquer, c'est dans Genèse 49. Donc c'est Jacob qui bénit Judas. Genèse 49, c'est le verset 9 et 10. Judas est un jeune lion, tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et on va trouver hein, quelque chose qui est similaire dans l'Apocalypse au chapitre 5 et les versets 5 et 6. Lorsque Jean pleure parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et voici ce que l'ange va dire à Jean. Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et j'aime beaucoup ce contraste avec le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Et donc vous voyez le lion de la tribu de Juda, on retrouve donc dans l'Apocalypse concernant Jésus-Christ cette bénédiction qui était adressée à Juda. Mais avec ce contraste, c'est l'agneau. L'agneau qui est là comme immolé. Et quelle différence, il n'y a rien de comparable entre un lion et un agneau. Alors les lions, moi j'ai des agneaux à la maison, enfin ils sont à Eddy, ils ne me font pas peur, je peux les prendre, etc. Un lion c'est autre chose, ça terrorise. Et voilà, le lion de la tribu de Juda, c'est l'agneau qui est immolé, et qui a vaincu pour chacun d'entre nous. Le Shiloh, la signification.
Il y a Shiloh, c'est Shalom.
Oui.
Et Shalia, c'est envoyé, donc envoyé de paix.
Envoyé de paix, hein, voilà, hein, envoyé de paix. L'homme de la paix aussi. Mm-hmm. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous parle de Jésus-Christ, hein, celui qui est appelé le prince de la paix. Est-ce que là aussi, vous avez des remarques? Non? Alors, on a le temps de voir encore. Allez, Melchisédek. Mm-hmm. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. On va prendre dans Genèse, chapitre 14. Quelqu'un veut le lire, 17 à 20 ?
Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout.
Voilà. Alors, c'est un texte qui pourrait passer un petit peu inaperçu, mais heureusement Dieu, dans sa sagesse, nous a donné une grande explication à ce sujet. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, alors on ne va pas tout lire là aussi, mais voilà, verset 1, « Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. » Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'y a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Et on pourrait continuer encore hein, le texte là d'Hébreux qui nous donne une grande explication. Et on voit vraiment qu'il y a... beaucoup de similitudes entre ce Melchisédek et notre Seigneur. Et on voit beaucoup de passages. Et roi de justice, et on sait que Jésus-Christ est aussi ce roi qui règnera selon la justice. Beaucoup de passages nous en parlent. Je vous ai noté Ésaïe chapitre 32, verset 1. Roi de Salem, roi de paix. Et on l'a dit, hein, voilà, hein, le prince de la paix, Jésus-Christ, en Ésaïe chapitre 9, verset 6. Alors, roi et sacrificateur. Les rois, ils étaient de quelle tribu? Judas. Hein. Tous. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui était d'une autre? Comment? Saül. Hein, voilà. À part Saül, tous les autres étaient donc de la tribu de Judas. Et c'était cette promesse qui a été donnée aussi que la royauté ne se donnerait point de Judas. Et les sacrificateurs, vous savez, ils étaient de Lévi. Donc c'était impossible d'être et sacrificateur et roi. Et ce Melchisédek est roi et sacrificateur, et notre Seigneur est notre roi et notre souverain et sacrificateur. Là aussi beaucoup de passages, je vous ai noté entre autres je pense Zacharie qui aussi nous parle de cela et qui est assez intéressant. Donc pas de commencement de jour, pas de fin de vie, Jésus-Christ qui est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. On voit aussi qu'il lui a donné le pain et l'eau, il a béni, il a réconforté, et c'est aussi également ce que Christ fait avec nous lorsqu'il s'approche de nous, lorsqu'il nous donne, il nous apporte cette communion avec lui, lorsqu'il nous donne cette victoire, ce repos aussi. Donc voilà, beaucoup de similitudes entre Melchisédek et Jésus-Christ. C'est moins 5, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Il y a Joseph aussi, qui a été vendu par ses frères, comme Jésus aussi qui a été vendu par les siens, Joseph qui a été ensuite une source de bénédiction pour ses frères, mais aussi pour le monde d'alors, hein, l'Égypte et les pays environnants, comme Jésus aussi, qui a été cette bénédiction. Et là aussi, c'est quelque chose qui est aussi frappant. Joseph est resté environ 12 ans dans cette souffrance, dans la prison, etc. Voilà, 12 ans, c'est long. Et pourtant, on voit, quand on lit sa vie, une parfaite illustration de ce verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce verset est très difficile à vivre lorsqu'on est dans l'épreuve. Mais lorsqu'on lit l'exemple de Joseph, c'est vraiment quelque chose qui nous encourage. Parce qu'on voit que Dieu avait un plan merveilleux et un plan de salut pour la famille de Joseph, pour le peuple d'Israël et pour l'Égypte aussi. Voilà. Si vous pouvez le garder pour la prochaine fois, si voilà, Dieu voulant, on continuera un petit peu et puis on essaiera de voir aussi donc l'incarnation avec les mauvaises conceptions comme je vous l'ai dit. On va ne pas prolonger comme ça. Si jamais il y a 2 ou 3 mètres de neige vers chez vous, vous aurez le temps de manier la pelle. Je ne sais pas si quelqu'un veut terminer en priant.
Amen. Amen. Ah bon.